Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
Que savons-nous de Chypre au Moyen-Âge au sens large, du 4e au 16e siècle, du triomphe du christianisme byzantin à la conquête de l'île par les Turcs en 1570 ? Découvrez l'histoire de cette île méditerranéenne, carrefour des civilisations gréco-romaines, byzantines et ottomanes, en compagnie de trois invités au micro de Canal Académie. Jean-Bernard Devèvre, correspondant de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, ancien diplomate, auteur d'un livre récent intitulé « Monuments médiévaux de Chypre ». Jannick Durand, conservateur général au département des objets d'art du Musée du Louvre et commissaire général de l'exposition « Chypre entre Byzance et l'Occident » du 4e au 16e siècle. L'exposition se déroule du 28 octobre au 28 janvier 2013 au Louvre à Paris et signalons la sortie du magnifique catalogue de l'exposition publié par les éditions d'art Somogy et Louvre Édition. Ajoutons que Jannick Durand est un grand connaisseur des icônes et de Byzance qui a dirigé le catalogue de l'exposition de 400 pages avec Dorota Giovannini. Jannick Durand est d'ailleurs en charge de la préfiguration du futur département du Louvre des Arts de Byzance et des Chrétiens d'Orient. Enfin, notre troisième invité est Pierre-Yves Le Pogam, conservateur en chef au département des sculptures du Louvre, qui a organisé une exposition en parallèle à cette occasion dans la salle d'actualité de l'aile Richelieu. Elle est consacrée à Camille en l'art. Un Français en Chypre, c'est son titre. Nos trois invités vont retracer pour vous l'histoire de Chypre, tour à tour byzantine, franque et vénitienne, à travers 150 objets d'art réunis au Louvre et l'histoire de cet archéologue, dessinateur et historien français du 19e, Camille Enlard, qui s'est rendu en Chypre en 1896 pour sa première mission. Bonjour messieurs.
Bonjour madame.
Bonjour.
Bernard Devèvre, pourriez-vous nous présenter un panorama historique de l'histoire de Chypre qui a connu différentes dominations et beaucoup d'influences. Parce que le cadre chronologique de l'exposition est très large, hein, 4e siècle, 16e siècle. On va peut-être commencer par la première.
Chypre a été donc sous domination de Byzance pendant des siècles. Nous n'évoquons pas ici la période antique de la civilisation classique grecque ou romaine. S'agissant de Byzance, je crois que mon ami Jannick Durand a donné les grandes lignes. Je voudrais surtout insister sur tout ce qui concerne la période dite franque, c'est-à-dire à partir du XIIIe siècle jusqu'à la fin de la domination byzantine en 1571. En gros, ce qui est important, c'est de savoir, de se souvenir que l'île est à environ 150 km des côtes syriennes et que ce fut pendant longtemps une plateforme, une étape pour toutes les troupes qui se dirigeaient vers Jaffa et la côte syrienne. Il se trouve que le destin de Chypre a basculé lors de la croisade de Richard Cœur de Lion, qui s'est vu contraint de faire un arrêt plus long que prévu en Chypre pour une question quasiment familiale, ce qui l'a conduit à mettre la main sur l'île, qu'il ne pouvait pas conserver pour de multiples raisons, qu'il a vendu à l'ordre du Temple, lesquels Templiers pas suffisamment nombreux et ayant d'autres objectifs, ont recédé l'île à la famille Poitevine des Lusignans.
Et il y a eu donc ce fameux royaume de Lusignans.
Voilà, le royaume des Lusignans qui a subsisté jusqu'à la fin du XVe siècle, lorsque, à la suite d'une affaire assez complexe, c'est la Sérénissime de Venise qui a pris les rênes de ce royaume jusqu'en 1571, date à laquelle l'île tombe aux mains des Ottomans.
Donc l'île a traversé donc une période byzantine, une première période byzantine hein, du 4e au 7e siècle, une seconde très très brillante de 965 à 1191, ce fameux royaume des Lusignans de 1192 à 1489 à peu près, et puis la dernière période beaucoup plus courte où l'île est sous la domination vénitienne à partir donc de 1489.
Je crois qu'il est important de noter que à la suite de la perte de la Terre Sainte, En 1291, c'est-à-dire lors de la chute de Saint-Jean d'Acre, les ordres militaires, c'est-à-dire le temple et l'hôpital, vont venir se fixer pour quelque temps sur l'île, en même temps que nombre de familles franques, d'une part, mais également syriennes, coptes, arméniennes, qui ne pouvaient plus rester sur la terre ferme de l'autre côté de la mer. Et ce brassage de populations d'origine diverse explique un peu, en histoire de l'art, les influences diverses que nous voyons se manifester sur les monuments, qu'ils soient monuments civils ou monuments religieux par exemple.
La statuette de l'impératrice qui est présentée dans la première salle qui ouvre un petit peu l'exposition, qui a été trouvée à Chypre par justement un voyageur français au XIXe siècle. Est-ce que vous pourriez nous présenter cette statuette ?
La statue en question, qui a été acquise par Louis de Malatry, oui, si je ne m'abuse, est d'autant plus intéressante que, je pense que Pierre-Yves Le Pogam reviendra sur ce point, nous avons finalement très peu d'exemples de la statuaire de sculpture en Chypre, aussi bien pour les époques antiques que pour la période médiévale. Dans la mesure où il est avéré que beaucoup de statues se trouvaient dans des monuments religieux et qu'après 1571, elles ont été systématiquement détruites. Lorsqu'elles n'étaient pas détruites, ça a été le cas par exemple pour les petites statues des voussures de la cathédrale Sainte-Sophie de Nicosie, ces statues qui représentaient des reines, des prophètes et des évêques étaient très nombreuses. Et le nouvel occupant, plutôt que de les casser une par une, a trouvé plus facile de les cacher en les plâtrant complètement. Ce qui est un bonheur pour nous parce que cela a permis, durant le temps de l'administration britannique, dans la première partie du XXe siècle, de nettoyer ces voussures et de voir quelques-uns de ces éléments de sculpture dont Pierre-Yves Le Pogam vous parlera plus longuement. Ce ne sont pas en général des éléments de très grande qualité, pour parler franc si nous les comparons à d'autres sortis des ateliers en Europe occidentale à la même époque, mais ce sont des monuments qui sont intéressants parce que là encore, ces petits monuments montrent des influences diverses qui sont franques, mais qui peuvent être effectivement aussi italiennes ou subir des influences encore plus complexes.
Un des intérêts de l'exposition, c'est aussi de présenter des exemples du trésor de Lambusa Lapithos. Vous faisiez allusion, Bernard Deveuve, justement aux destructions de certaines œuvres à la suite de la domination ottomane sur l'île, mais on a aussi enfoui, au moment de la perte de l'île par les chrétiens, enfoui des trésors importants. Qui peut nous présenter l'intérêt de ce trésor ?
En un mot, c'est une série de plats tout à fait exceptionnels, par la taille d'abord, par le poids aussi, j'allais dire, au sens physique, et puis par l'iconographie qui est tout à fait remarquable, assez typique de l'époque byzantine la plus ancienne, où très souvent l'histoire de David, le roi biblique, est évidemment une sorte de métaphore de l'empereur lui-même. On a là un héros biblique, mais qui est aussi évidemment le symbole de l'autorité politique par excellence. Et ces plats sont d'autant plus intéressants qu'on trouve dessus des scènes de l'histoire de David qui sont extrêmement rares, et notamment son mariage, par exemple, dans un cadre architecturé qui est tout à fait étonnant. Et puis, évidemment, l'exposition du Louvre est importante, puisque c'est une des premières fois où on a réuni, non pas tous les éléments, mais presque tous les éléments de ce splendide trésor, découvert d'ailleurs à deux reprises.
Marquons une courte pause et retrouvons-nous dans quelques instants sur le sujet particulier des icônes présentées dans l'exposition et en particulier sur l'icône de Saint Mamas, emblème phare de l'exposition, une icône qui vient de Paphos sur la côte ouest de Chypre et qui était à l'époque de l'Antiquité tardive la grande cité de l'île. L'île regardait à ce moment-là dans la direction de Rome et de Constantinople et non vers le Levant. Jeannick Durand, nous sommes devant l'icône Saint Mamas, un des chefs-d'œuvre exposés dans le cadre de l'exposition Chypre entre Byzance et l'Occident du VIe siècle au XVIe siècle. Cette exposition l'ouvre et c'est un petit peu, peut-être, probablement, l'icône de cette exposition. Est-ce que vous pourriez, avec nous, pour nos auditeurs, rentrer dans la conception de cette icône, nous la présenter et nous expliquer pourquoi, en fait, vous l'avez choisie comme emblème de cette exposition ? Alors, tout d'abord, qui était Saint Mamas ?
Alors, Saint Mamas, ou en français Saint Mamès d'ailleurs, est un des saints de l'Église d'Orient et de l'Église universelle. C'est un martyr de Cappadoce, hein, des temps paléochrétiens, et qui a eu la chance d'avoir sa vie racontée par de grands personnages, et notamment Grégoire de Nazianze, qui nous a laissé les éléments que l'on sait substantiels sur sa vie et son martyr d'un coup de trident. C'est un saint donc très cultivé dans l'Église d'Orient, et plus particulièrement encore en Chypre, mais c'est également un saint connu en Occident sous le nom de saint Mamès. Hein. La cathédrale de Langres lui est dédiée depuis au moins la fin du 8e siècle et probablement avant. Et puis on a aussi dans le bocage normand des églises paroissiales dédiées à saint Mamès et ailleurs en France. Et puis on a à Sceaux, l'église de Sceaux, tout simplement près de Paris, qui depuis 1726 lui est dédiée.
Qu'est-ce qu'il représente comme saint, alors cette fois pour l'église chypriote? Est-ce que c'est un saint un peu particulier pour eux?
Alors saint Mamès est un saint un peu particulier pour l'église chypriote parce qu'une tradition chypriote que voudrait que les restes de saint Mamès, enfin une partie de ses reliques, soient miraculeusement arrivés dans un grand sarcophage de marbre qui se serait échoué à Morfou. Et à Morfou, il y a toujours aujourd'hui le grand sanctuaire de saint Mamès ou saint Mamès. C'est évidemment très important pour les chypriotes, sans compter que peut-être, enfin on le dit, est-ce vrai, n'est-ce pas vrai, que le fait que dans l'un des épisodes de la vie du saint, le montre chevauchant un lion qu'il a apprivoisé, au XVIe siècle, ce thème, au moment de l'occupation vénitienne, d'un saint, bien sûr, de l'Église universelle, mais particulièrement cultivé par les chypriotes et la population autochtone, chevauchant un lion, pouvait peut-être, bon, ce sont peut-être des hypothèses, mais c'est amusant possible de le noter.
Voilà. Vous faites donc allusion à la domination vénitienne.
Oui,
sur
puisque c'est l'époque où fut peint ce saint Mamès.
Voilà. Donc c'est une des pièces les plus éloignées dans le temps par rapport aux autres pièces.
Oui, on aurait pu choisir une autre icône ou un autre objet pour l'exposition, mais celui-ci est très visuel, très, très fort. La façon dont le visage du saint avec ses cheveux quelque peu hirsutes, le lion à l'air débonnaire, nous regarde. Il y a une espèce de vie et c'est quelque chose de très, comment dirais, ça accroche, si vous voulez, le regard. Et c'est après tout, pour un visuel d'exposition, ce que l'on demande essentiellement.
Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur la tradition de l'icône byzantine puisque celle-ci est peut-être donc l'exemple d'une synthèse des différentes traditions qui a traversé cette île?
Oui, l'icône, là nous sommes au XVIe siècle, s'inscrit évidemment dans la tradition de l'icône byzantine, hein, qu'il s'agisse de son format, du sujet, du fond d'or, de la façon de camper le personnage, d'idéaliser les traits du personnage. Nous sommes là dans la tradition byzantine la plus pure. Cependant, cette tradition quand même ne tombe pas dans la stérilité et se renouvelle légèrement, et avec fruit, dans la mesure où quelques traits permettent d'insuffler une vie nouvelle à la tradition byzantine et d'éviter la stérilisation, si je puis dire.
Paraît animé quand même. Là.
Oui, justement. L'animation, d'une part, vous en trouverez encore des prototypes byzantins à l'époque paléologue, notamment au XIVe et XVe siècle, où on a une espèce de dynamisme, un élan baroque. Mais là, les couleurs, par exemple, l'accord des couleurs entre les oranges et les rouges, donne une vie qui a quelque chose qui tient moins à la tradition byzantine en tant que telle que peut-être à une perception un peu orientale. De la même manière, vous avez un détail méticuleux qui s'attache à la description des bijoux avec les griffes, les perles qui sont ombrées. Et là, vous avez évidemment peut-être comme un écho du savoir-faire occidental dans la description méticuleuse et réaliste des détails. Et ça donne évidemment un renouveau qui évite encore une fois toute stérilité à l'art, à cette peinture du XVIe siècle.
Alors la cape là de saint Mamès est rouge, elle flotte au vent, c'est pour ça qu'il y a un côté dynamique,
oui,
aussi en plus des couleurs. Elle flotte au vent et ça va jusque dans le détail des bijoux et de représentation des joailleries.
Oui,
qui
il y a
sont
même aussi des petits anneaux d'or, hein, qui sont cousus sur le manteau également. Donc c'est un saint évidemment idéalisé. Vous avez aussi les chaussures enrichies de perles avec, bien sûr, on voit transparaître le rouge de la chose du saint, qui est un rouge évidemment à la fois impérial et par définition marquant la personnalité qui transcende l'humanité normale, comme les archanges.
Que sait-on alors de l'auteur de cette image?
Rien.
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 Parfois,
c'est une icône anonyme.
On connaît les peintres.
Parfois, on connaît les peintres, oui, parce que
même
on peut rapprocher des œuvres. C'est le cas pour l'icône de Théodore Apsevdis de la Vierge, où on peut vraiment reconnaître
présent
la main ou l'atelier du peintre auteur des fresques de l'Enkleistra, de saint Néophyte au nord de Paphos. Mais la plupart du temps, les icônes ne sont évidemment pas signées. Quand elles sont datées, c'est déjà formidable, mais toutes ne le sont pas non plus, loin de là. Non, c'est un peintre de tradition post-byzantine, ça c'est clair. On a avancé des noms et notamment on a rapproché cette œuvre aussi d'un peintre goule dont on ne sait absolument rien, dont on pense, parce qu'il a peint une ou deux églises avec ses aides, qu'il était originaire peut-être de Syrie justement. Donc vous voyez, il y a tout un confluent. Mais c'est une œuvre qui doit rester dans l'anonymat.
Donc une œuvre anonyme. Est-ce qu'elle a une singularité sur le mode technique, sur le panneau de bois sur lequel elle est peinte?
Non, normale.
Il n'y a rien de particulier là-dessus. Sans,
non, là, il n'y a pas de technique particulière, à la différence du Saint-Nicolas, du grand Saint-Nicolas de Saint-Nicolas-du-Toit, qui montre l'usage du parchemin qui s'est introduit dans l'icône byzantine et qui est là vraiment quelque chose de très, très particulier. Mais on est à une autre époque, on est fin 13e, enfin, etc. Là, nous sommes dans la tradition normale de l'icône byzantine peinte sur panneau de bois, sans problème.
Les icônes étaient destinées à des usages particuliers.
Oui,
ce sont des images religieuses qui ont vraiment une fonction. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ces usages?
Là, le format de l'icône est un format quand même, elle fait un peu moins d'un mètre, mais enfin, elle est quand même relativement grande. Ça pourrait tout à fait être une icône destinée à prendre place sur une iconostase, hein, au registre où on a latéralement les saints ou le saint titulaire de l'église. Il y a suffisamment d'églises dédiées à Saint Mamès en Chypre. Mais naturellement, c'est une icône aussi de dévotion, hein, ça c'est clair.
Est-ce qu'on a repéré sur l'icône des endroits plus usés que d'autres?
Non, pas davantage. Elle est d'ailleurs, c'est un des intérêts aussi de cette icône, c'est qu'elle est d'ailleurs relativement bien conservée. ce qui est bien est très peu restauré, ce qui est encore mieux.
Où est-ce qu'on peut la voir actuellement? Parce que là, elle a été prêtée.
Elle a été prêtée par le musée byzantin de Paphos. Paphos est connu pour ses mosaïques, ses monuments antiques, etc. Son musée archéologique aussi, mais il y a aussi un musée byzantin où il y a quelques œuvres qui méritent le détour. Il y a aussi une icône de Saint-Jacques le Perse que nous n'avons pas empruntée parce qu'elle avait figuré à une exposition de New York, donc on l'a pas empruntée, et puis elle est plus difficilement lisible, il est vrai, moins bien conservée. Et puis il y a une ou deux autres œuvres ici de l'exposition qui viennent de Paphos et que je laisse le public chercher.
Quel est l'intérêt de présenter une exposition sur Chypre médiévale et non sur les antiquités de Chypre, l'île d'Aphrodite, plus connue du grand public?
L'intérêt de présenter une exposition médiévale, c'est de faire découvrir au public français une période qu'il connaît moins. Parce que même s'il va en Chypre, il peut voir effectivement des sites antiques, il y en a énormément, sans trop de difficultés. Il peut aller se balader à Kourion, il peut aller se balader à Paphos, et il peut voir beaucoup de sites extraordinaires. En revanche, pour l'époque médiévale, il lui faut quand même, en quelque sorte, se rendre dans pas mal d'endroits pour commencer à avoir une petite idée. Voyager davantage, voir des églises. Bon, là, pour les fresques, ça va, elles sont relativement faciles d'accès. Mais il y a quand même, pour les objets, etc., il faut qu'il se fasse à lui-même sa synthèse. Là, on lui propose, au contraire, une synthèse sur cette époque qui n'avait jamais été faite au Louvre, qui est différente des autres expositions organisées dans le cadre de la présidence du Conseil de l'Union européenne par Chypre, qui, elle, repose sur l'Antiquité. C'est vrai que ça aurait été plus facile de proposer une exposition sur l'Antiquité, parce que les collections chypriotes sont extraordinairement riches, donc c'était plus facile de prendre une partie d'un musée et d'en faire une exposition passionnante. Mais là, pour le coup, c'est peut-être une gageure, mais on a essayé de proposer autre chose pour le public français. Voilà.
Sur 1000 ans, Chypre s'est hissé justement au rang d'État, au moment de l'occupation franque. Est-ce qu'on peut parler d'une tradition artistique à Chypre autonome, justement, dans ce contexte-là?
C'est une bonne mais difficile question que celle de l'autonomie artistique, à toutes les époques d'ailleurs, parce que si c'est moins évident pour l'époque de la fin de l'Antiquité, encore qu'on pourrait poser la question dans le cadre des transports des marbres, c'est une question qui se pose pour l'époque byzantine entre tradition, par exemple pour les icônes plus justement byzantines, ou au contraire tradition qui incorpore des éléments dits des croisades, enfin des icônes des croisades. C'est également le cas pour l'époque des Lusignans, où effectivement un gothique d'importation a quand même une couleur, soit par la pierre, soit par un détail local. Alors, de la même manière que les icônes par rapport à d'autres centres byzantins encore à l'époque ou sous d'autres dominations. Oui, c'est une bonne question, mais elle n'est pas facile.
Donc c'est un art de la synthèse où on voit pointer. Quelles hypothèses avez-vous voulu formuler ou laisser au public une idée lui-même?
Je crois qu'on peut dire que ce qui fait l'identité chypriote, s'il y en a une, et je crois qu'il y en a une, c'est que effectivement c'est cette espèce de foisonnement, et au fond c'est cette identité, je dirais, multiple. C'est-à-dire ce sont ces facettes, c'est comme un peu un kaléidoscope finalement, mais un kaléidoscope est un objet en soi-même, donc une unité aussi.
Je vous remercie, Jean-Luc Duré.
Je vous en prie.
En quoi Chypre se distingue-t-elle des expériences d'Al-Andalus ou de la Sicile, qui ont été également des expériences historiques et culturelles de métissage de civilisations? Pierre-Yves Le Pogam.
Je pense qu'une des différences, c'est une situation un peu comparable, mais la différence essentielle à mes yeux, c'est que c'est encore plus compliqué. parce que en Espagne, on le sait bien, c'est avant tout la présence de l'islam, avec aussi évidemment l'existence de communautés juives très importantes qui a marqué le métissage culturel entre cette civilisation chrétienne et ses voisins, rivaux, ennemis, parfois alliés du monde musulman. En Sicile, c'est un peu la même chose. On est dans deux, voire trois civilisations. En Chypre, c'est peut-être encore plus compliqué, c'est ça qui est passionnant, puisque nous n'avons pas deux ou trois religions, deux ou trois écritures, deux ou trois civilisations. On a une multitude de populations, comme vient de le rappeler Jean-Bernard de Vèvre, qui ont leur religion, qui ont leurs coutumes, qui ont leurs écritures. Et tout cela se mêle d'une façon extrêmement complexe, puisque parfois, on peut très bien écrire d'une manière, mais parler d'une autre. On peut être byzantin, si je puis dire, orthodoxe, en tout cas dans sa foi, mais se marier avec une franque, et vice-versa. Donc, il y a une mixité qui est vraiment très profonde, sans pour autant d'ailleurs que cela se reflète de façon facile dans l'art de Chypre. Là, je pense plutôt évidemment au XIIIe, XVe siècle, qui est la période finalement où ce brassage est le plus complexe.
Vous avez à l'esprit un exemple justement d'œuvre d'art qui mêle toutes ces influences ?
Il me semble que dans les grands monuments gothiques, on a évidemment en principe l'illustration parfaite de l'influence, si on regarde les choses un peu loin, de l'art gothique du nord de la France. Mais à y regarder de plus près, il y a aussi des éléments qui viennent de Syrie, notamment dans des détails décoratifs, par exemple, qui sont tout à fait typiques de monuments qu'on retrouve, par exemple, dans les États croisés. Donc, vous voyez, il y a à la fois des grands éléments qui viennent, d'ailleurs peut-être à la suite de Saint-Louis, hein, et des architectes qui sont venus avec lui au milieu du XIIIe siècle, mais on voit aussi beaucoup d'autres réactions. Et puis alors, il y a une autre chose peut-être qui est intéressante, c'est de voir la notion de décalage éventuellement temporel entre ce qui se fait en Occident et ce qui se fait en Chypre, parce que on voit parfois des choses qui ressemblent beaucoup au gothique septentrional, qu'on trouverait à Paris, à Soissons, à Reims, mais souvent avec un décalage temporel. Et ça, évidemment, c'est la preuve, non pas d'un retard, mais du fait qu'à Chypre, on a son identité et ses réactions qui sont souvent liées d'ailleurs à des personnalités. Par exemple, tel archevêque rigoriste va imposer un style emprunté à l'esprit de Cîteaux, quelque part, ou à celui des ordres mendiants.
Des cisterciens.
Et donc, c'est aussi une affaire de personnalité.
Et puis, vous parliez d'une variété plus grande de population. Vous faisiez, je suppose, allusion à ce qu'on appelle aujourd'hui les minorités d'Orient, chrétiennes d'Orient. Je pense que c'était
oui,
à ça que vous faisiez allusion. Il y a également un objet important, juste en dire deux mots, un beau bassin d'argent, je pense. C'est un alliage, non,
c'est souvent du laiton,
complexes. De cuivre, mais un bassin au nom de duc de Lusignan. Et ce qui est frappant sur ce bassin, c'est qu'il y est inscrit une formule en lettres arabes, qui est justement en hommage à Hugues de Lusignan, avec le nom d'Hugues de Lusignan, mais transcrit en arabe. Ça, c'est assez joli comme anecdote. Et bah, c'est pas de l'anecdote, c'est la preuve justement de ce mélange des langues.
C'est très important et en fait, tout simplement, les francs, au sens large du terme, ou disons les aristocrates ou les grands personnages du royaume de Chypre avaient tout à fait conscience que la supériorité dans ce domaine précis, c'est-à-dire de l'orfèvrerie, ou plus spécifiquement ici ce qu'on appelle la dinanderie, était évidemment du côté des civilisations, je dis des civilisations ou des cultures musulmanes, parce qu'elles sont nombreuses, aussi
oui,
bien en Égypte que
en
surtout
Égypte.
En Syrie,
oui,
hein, voilà. Où se fabriquait ce genre d'objets depuis le XIIIe siècle. Donc on sait qu'il y avait une très très grande capacité des artisans à faire de très beaux objets, et on les commandait sans se rendre compte forcément d'ailleurs que peut-être le nom d'Allah allait se mêler ensuite à celui duc de Lusignan.
Alors là, c'était pas forcément le cas. Mais ne pouvant pas dire qu'il s'agissait d'un roi, justement, le créateur ou l'artisan d'art qui a fait ce bel objet a trouvé une astuce. L'inscription française et les armes ont été ajoutées sur des zones laissées en réserve pour être achevées dans un atelier franc en Chypre. Les deux textes arabes et français ne se comprennent cependant qu'ensemble et complétés par l'héraldique. En arabe, donc il est écrit, « Que sa gloire se perpétue fait écho aux Français, que Dieu maintienne ». L'arabe omet soigneusement le titre du roi qui ne pouvait être donné en terre mamelouque à un souverain non musulman, tout comme il évite la mention de la souveraineté sur Jérusalem.
Voilà. Bien sûr, oui. C'est un bel exemple d'adaptation et de clause de conscience, entre guillemets, de réserve.
De diplomatie, Bernard de Vèvre, quand même, là, dans un exemple extraordinaire.
Tout à fait. C'est un objet absolument unique qu'il faut rapprocher d'autres du même genre qui existent dans les collections islamiques en France ou
au baptistère de Saint-Louis.
Tout à fait.
Qui c'est, j'allais dire, l'équivalent plus petit, probablement. La dimension est tout à fait différente, mais c'est un très bel objet. Alors, est-ce qu'il y a des produits, j'ose pas dire ça comme ça, des objets ou des produits qui sont spécifiquement conçus et produits à Chypre? Est-ce qu'il y a une spécificité chypriote médiévale?
Je pense à un cas, mais c'est plutôt Yannick Durand qui en est le spécialiste, oui. Mais il l'a peut-être évoqué.
Vous pensez à la céramique.
Oui, la céramique d'une part, qui est vraiment une grande production, puis la stéatite,
oui.
Dont on a trouvé très récemment un atelier sur place en Chypre.
La stéatite
est une matière minérale dont on fait de petits objets en général de dévotion, qui est très important dans l'ensemble du monde byzantin. Ça a une couleur un peu verte, mais très récemment, dans des fouilles, on a retrouvé des éléments non finis, ce qui prouve évidemment que un atelier au moins, a été présent en Chypre. C'est la première fois pour l'ensemble du monde byzantin qu'on trouve un lieu précis de création. Ce sont des petits objets, mais c'est quand même très important. Ça montre que Chypre n'est pas seulement un réceptacle d'œuvres, mais il en produit. Alors, la céramique aussi, bien sûr, c'est un des très beaux exemples.
Il y a un point aussi qui est tout à fait étonnant. Je pense que peut-être que Yannick Durand a insisté sur ce point. C'est que dans toutes les églises, notamment celle du Trodoc, c'est-à-dire le massif montagneux, ces petites églises sont revêtues intérieurement de peintures murales, parfois de fresques, selon les techniques employées, selon les cas, mais qui sont les exemples les meilleurs de peintures byzantines que l'on ne retrouve plus, hélas, à Constantinople ou sur les rives du Bosphore, mais dont on a une très bonne connaissance aujourd'hui grâce à toutes ces peintures qui étaient faites par des peintres itinérants qui venaient de Byzance et qui périodiquement repeignaient l'intérieur de ces petites églises.
Il y a des exemples dans l'exposition de ces peintures. Pierre-Yves Le Pogam, dans l'Occident des XIIIe et XVe siècles, les élites profondément christianisées accordaient une grande importance évidemment à l'art funéraire. La mort était très présente, c'était l'époque des grandes épidémies, la vie était courte, bref. Et donc, les élites en question commandaient des monuments funéraires en souvenir de leurs proches disparus. C'est donc un art particulier qui a eu beaucoup d'importance en Occident. Et alors, qu'en est-il en Chypre? Est-ce qu'on a l'équivalent de cette ou des variantes? Je vous laisse la parole.
Alors, on retrouve évidemment beaucoup de tombeaux, c'est une des grandes particularités de Chypre. Et on trouve une grande variété dans ces tombeaux également, une typologie très variée, des dalles gravées, des tombes plus complexes. Mais effectivement, il est intéressant de voir que, au fond, Chypre reprend des choses, mais ne reprend pas tout. Par exemple, on ne trouve pas, a priori, jusqu'à présent, de tombeaux à gisant. Alors peut-être que le vandalisme a joué, mais il ne semble pas qu'il y en ait existé. Par contre, les représentations figurées se trouvaient sur les coffres, l'équivalent de ce qu'on peut appeler un sarcophage, si vous voulez, dans le monde antique. Et on trouvait les souverains, les princes, les personnages importants en prière, agenouillés sur le coffre, ce qui n'est pas du tout le cas dans l'iconographie des tombes en Occident. Et puis une autre particularité, c'est peut-être que les dalles gravées, qui sont très très nombreuses, comme elles l'étaient d'ailleurs en Occident, sont parfois, j'allais dire, savoureuses dans le tracé rapide avec lequel l'artisan les a exécutées. Mais
c'est une ligne, hein. C'est vraiment très sobre, c'est très beau.
C'est très simple,
c'est presque très sobre. Ça se rapprocherait d'un graphisme assez moderne, on dirait ça aujourd'hui.
Tout à fait, mais en même temps avec une bonne observation de certains éléments importants qui sont ceux qui permettent de reconnaître les chevaliers, par conséquent l'héraldique d'un côté, de l'autre l'armement militaire. Donc on voit bien que ce qui comptait pour eux, c'est la reconnaissance des éléments identitaires, si l'on peut parler ainsi. Et alors ce qui est intéressant à cet égard, c'est qu'on trouve aussi en Chypre beaucoup de représentations de livres, ou de représentation du monde écrit. Par conséquent, ces élites franques n'étaient pas seulement des guerriers, c'était aussi des gens cultivés.
C'est ça que vous vouliez ajouter. Et il y a de grands exemples, justement, de manuscrits présentés dans l'exposition, y compris en provenance du musée Condé de Chantilly. Il y a de très beaux exemples. À propos d'art funéraire, Pierre-Yves Pogam, est-ce que vous pouvez évoquer le fragment qui est présenté, justement, dans le cadre de l'exposition, et qui est un petit fragment du, on suppose, c'est une supposition du prince de la dynastie de Lusignan. Mais alors, est-ce que vous pourriez nous présenter ce petit marbre? Je ne sais pas comment le qualifier.
C'est un élément de coffre de tombeau. Et je précise tout de suite que l'idée de que c'était un prince de la maison de Lusignan vient de Camille Enlard, donc ce personnage dont on reparlera tout à l'heure, qui a acheté ce fragment dans le bazar de Nicosie. C'est tout à fait pittoresque. Et l'a ensuite offert au musée du Louvre au retour, quelques années après, au retour de son expédition de Chypre. Mais il faut préciser que, à juste titre, Jean-Bernard de Vèvres a mis beaucoup de nuances à cette identification. En réalité, il est probable ou possible qu'il s'agisse d'un prince, il est couronné, il est probable, possible qu'il s'agisse d'un Lusignan, mais on doit rester très prudent car le lion qui est représenté sur l'écu est partagé par beaucoup de familles en Chypre, qui évidemment partageaient cet élément, ce meuble très très courant en héraldique. Et puis aujourd'hui, nous n'avons pas la polychromie qui pouvait éventuellement rehausser ce marbre et qui peut-être indiquait qu'il s'agissait réellement des armoiries des princes
de Lusignan. C'est donc là un prince en prière.
Oui, c'est une pièce extrêmement intéressante, acquise sur le marché de Nicosie par Camille Yanda. On avait absolument voulu y voir immédiatement, très rapidement, un roi lusignan. Je crois que, très honnêtement, ce n'est pas le cas, parce que les armes ne présentent un lion, et ce lion devrait être sur un burlet, si...
Ce sont
des petits traits horizontaux et parallèles. Et sur le fond d'écu, le lion
n'apparaît pas.
Brochant. Mais il est très probable, comme le souligne Pierre-Yves, qu'il s'agisse d'un membre de la famille de Lusignan, d'un des princes. Il a quand même une couronne. La raison pour laquelle j'étais un peu réservé, c'est que on a voulu longtemps, chaque fois que l'on voyait un lion, l'attribuer à un roi ou à un prince des Lusignans. Or, comme en Europe occidentale à la même époque, il se trouve que les grands officiers de la couronne et les grands feudataires avaient tendance, lorsqu'ils adoptaient des armoiries, à reprendre l'un des meubles principaux du souverain. D'où le lion et la très grande fréquence des lions que l'on trouve notamment sur des linteaux de porte en Chypre et qui ne sont pas toujours absolument identifiables précisément. Je voudrais juste rajouter une chose à ce que disait très justement Pierre-Yves Le Pogam, qui est un grand spécialiste de la sculpture funéraire, notamment. C'est qu'en Chypre, nous avons très souvent sur ces dalles gravées des épitaphes en langue française, alors qu'à la même époque, là je suis en train de travailler sur les dalles tumulaires de Bourgogne de la même époque, la plupart, aux mêmes époques, sont toujours en latin. Ce qui prouve que la langue française était très généralement et usuellement pratiquée par les habitants, en tout cas des classes dominantes en Chypre.
Alors, avant d'évoquer la personnalité de Camille Yanlar, je voudrais quand même qu'on revienne un petit peu encore sur une belle sculpture quand même qui est présentée dans l'exposition. Je pense que vous interviendrez tous les deux, Pierre-Yves Le Pogam, comme exemple d'art gothique, il y a un grand Christ de marbre de plus de 2 mètres qui est présenté. Quelle est la particularité de ce Christ bénissant ?
Alors, c'est une œuvre tout à fait exceptionnelle, mais qui n'a pas encore révélé tous ses secrets, parce que elle est au fond assez mal connue. Elle a été publiée déjà il y a longtemps, mais de manière très rapide. Et elle est présentée ici pour la première fois. Il s'agit d'un grand Christ bénissant qui est un relief, il faut insister là-dessus. Donc évidemment, non pas une statue, mais l'élément de quelque chose d'architectural, peut-être un tympan. Et puis, très en relief. Puis par ailleurs, le style est très déconcertant pour un historien de la sculpture que je suis occidental, car il s'agit au fond d'une sorte de mélange d'éléments occidentaux puis d'éléments plus proprement byzantins. Par conséquent, la datation est difficile. Le choix, je crois, dans la notice d'exposition, de le dater plutôt vers 1300, ce qui est tout à fait possible. Mais on est assez, si vous voulez...
On est dans les hypothèses
face à une sculpture qui nous échappe un peu, car très très peu de sculptures de ce type-là, comme Jean-Bernard de Vève l'a rappelé, sont conservées pour Lille.
Et nous n'avons donc pas, effectivement, de point de comparaison qui nous permettrait d'aller beaucoup plus loin. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est le visage de ce Christ avec les pommettes très hautes, qui n'est quand même pas très semblable à ce que l'on voit à peu près aux mêmes époques. Nous sommes d'accord à peu près sur la période probable d'exécution de cette sculpture. Une notice avait été publiée il y a des années qui faisait des références à des éléments de sculpture, grands édifices religieux français. Je crois que malheureusement, ça ne tient pas. Je dois dire, parce qu'il faut lui rendre le mérite, c'est que Yannick Durand a présenté une hypothèse qui n'a pas encore été reprise sur ce très beau catalogue, mais dont le mérite lui revient et à laquelle je me rallie tout à fait, c'est-à-dire que ce serait un élément du portail central de la cathédrale Sainte-Sophie de Nicosie. J'avais découvert, lorsque j'étais en Chypre, quasiment dans une maison pratiquement abandonnée, une sculpture qui, elle, était presque en ronde bosse et qui doit provenir, elle, du portail de la cathédrale Saint-Nicolas de Famagouste, mais nous n'avons guère que cet élément de comparaison, et il n'est pas décisif, malheureusement, pour une datation. Je crois qu'il faut se baser sur d'autres critères.
Qu'est-ce qu'il a de spécifique, Pierre-Yves Le Pogam, des Christ bénissants? Il y en a beaucoup. Vous avez parlé d'un mélange d'influences byzantines et gothiques. Concrètement, si je place sur l'article qui accompagne l'émission la photo, comment vous pourriez expliquer ça?
Eh bien, d'abord, le type de barbe est très différent de celui d'un Christ occidental. Elle est bien sûr beaucoup plus longue. Elle fait penser à un ascète, hein, et on pense ici à toute la spiritualité monastique de Chypre qui est très importante. Et puis d'autre part, il n'y a absolument pas ce qui est très important en Occident à ce moment-là, c'est-à-dire un déhanchement ou un très léger déhanchement, c'est-à-dire une animation de la partie basse du corps, notamment par le jeu des jambes. Et là, on a au contraire une sorte de rigidité, d'ailleurs très belle, très classique, très équilibrée, mais qui ne correspond pas du tout à ce qu'on fait en Occident à ce moment-là.
Merci de cette explication. Alors on va passer aux voyageurs et aux visiteurs en Chypre au XIXe siècle, en particulier avec la personnalité de Camille Enlard. Est-ce que vous pourriez nous présenter sa formation, ses missions, Bernard de Vèvre? Vous avez beaucoup travaillé sur Camille Enlard.
Oui, j'ai beaucoup travaillé sur Camille Enlard. J'ai eu la chance de me retrouver dans les archives de la médiathèque du patrimoine, dans les collections du fort de Saint-Cyr, totalement noyé au milieu d'autres pièces, des photographies prises par Camille Enlard en 1896, qui ont donc fait l'objet du livre que vous évoquiez.
Monuments médiévaux de Chypre.
Photographie de la mission de Camille Enlard en 1896. Camille Enlard est un personnage tout à fait étonnant, d'une famille de magistrats du nord de la France, qui a d'abord voulu s'essayer au dessin. Il était formé dans l'atelier du peintre Bougreau, qui a connu une certaine renommée. Mais d'une famille de magistrats, ses parents ont souhaité qu'il fasse son droit, ce qu'il a fait. Mais n'étant pas très attiré par les carrières juridiques, il est entré à l'école des chartes, d'où il est sorti le premier. Il a été envoyé à l'école française de Rome et très rapidement, on lui a confié des missions. Parmi ces missions, il y en a eu de nombreuses durant sa vie. En 1896, il a été envoyé en Chypre pour étudier les monuments de la période médiévale. Il est resté à peu près 4 mois sur l'île, ayant, avant de partir, étudié très en détail, grâce notamment aux travaux historiques très complets, lui, comte de Malatry.
Et parce qu'il a eu quelques prédécesseurs.
Au milieu du 19e siècle, c'est le prédécesseur le plus important qui avait travaillé beaucoup sur les textes, qui avait fait lui-même une reconnaissance sur l'île. Et Camille Enlard, lorsqu'il est venu en Chypre, avait une très bonne connaissance de la topographie de l'île, de tous les textes médiévaux concernant tous les sites importants ou beaucoup moins importants. Et il a, à cheval, à dos de mulet, en portant avec lui ses cartons à dessin et un appareil de photo qui était à ce moment-là une chambre avec des plaques de verre, donc très fragiles et très lourdes, fait de nombreux relevés de pratiquement tous les monuments médiévaux de l'île. Je dois dire que, ayant passé 3 ans sur cette île, ayant, chaque fois que je le pouvais, essayé de mettre mes pas dans les siens pour aller voir et revoir tout ce qu'il avait vu, je pense qu'il n'a pratiquement rien oublié, qu'il a vu toutes les églises, tous les châteaux, tous les édifices civils, et qu'il en a donné une description d'une qualité et d'une exactitude qui aujourd'hui force véritablement l'admiration.
C'est donc un intérêt historique capital, puisque là on a en gros, j'allais dire, une photographie générale du patrimoine
tout à fait.
De l'île.
3 ans après sa mission, il a publié en 2 volumes, en 1899, un ouvrage...
Alors ça, c'est pour son apport scientifique.
Son apport scientifique, mais qui est absolument considérable. Il est d'ailleurs reconnu comme un des grands médiévistes et spécialistes de l'architecture. Pendant des décennies, encore aujourd'hui, je crois, les étudiants continuent à travailler sur son manuel de l'architecture française, qui est une somme remarquable. Mais il avait donc pris de nombreuses photographies qui étaient restées complètement inconnues, inédites, que j'ai eues grâce à Jean-Daniel Pariset, qui était le directeur de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, qui m'a permis d'aller fouiller dans ses fonds il y a beaucoup d'années. J'ai retrouvé ces plaques, elles ont été numérisées, beaucoup étaient en mauvais état. Il a fallu faire un gros travail que j'ai effectué pour les éclaircir et les présenter de façon claire. Et c'est donc aujourd'hui ce qui est présenté sous la forme de ce livre avec environ 200 photographies de monuments et de sites qui nous donnent des états qui ont parfois beaucoup changé aujourd'hui.
Pierre-Yves Le Pogam, vous êtes l'auteur de l'exposition qui accompagne cette grande exposition sur Chypre entre Byzance et l'Occident. Pourquoi s'est imposé comme ça ce regard des savants, des voyageurs, et en particulier de cet archéologue et cet historien d'abord français?
Eh bien, je dois dire que tout d'abord, c'était une nécessité en quelque sorte. Camille Enlard est vraiment notre prédécesseur. Et nous voulions lui rendre hommage, non pas de manière nationaliste, mais tout simplement parce que c'est vraiment le grand spécialiste de Chypre, comme vient de le rappeler Jean-Bernard de Vèvre. Alors, l'exposition que j'ai dirigée est toute petite, hein,
c'est
vraiment
une
présentation,
exposition.
Il faut le spécifier, mais qui vient apporter une sorte d'éclairage particulier, et notamment parce que le livre de Jean-Bernard de Vèvre le montre très bien, ce sont des centaines de plaques photographiques merveilleuses qu'il a faites, et des dessins extraordinaires aussi. Et nous avions envie, simplement, à cette occasion, en quelque sorte, de remontrer un peu sa démarche, de nous mettre là aussi dans les pas de Camille Enlard, enfin, à Paris, de manière très modeste, et de montrer, du coup, quelques photographies qui étaient inédites à ce moment-là, en tout cas, qu'il n'avait pas réutilisées dans son grand ouvrage, et également quelques-uns des relevés originaux, puisque, bien sûr, ils sont reproduits dans son ouvrage majeur, donc, de 1899, sur l'art gothique et la Renaissance en Chypre. Mais dans certains cas, en plus, ils avaient l'avantage d'être en couleur, d'être des relevés aquarellés. Et par conséquent, c'était assez amusant, non seulement de montrer à quel point ce personnage était fidèle, il allait loin dans la restitution de ces éléments, mais aussi parce que, tout simplement, c'est, en l'occurrence pour des fresques, ces relevés permettent de se donner une idée assez précise de ce qu'étaient ces œuvres d'art à l'époque de sa découverte.
Parce qu'en 100 ans, elles ont pu, être détériorées, se détériorer naturellement. Donc c'est vraiment d'un intérêt capital.
En voici une par exemple.
Dans l'ouvrage donc du Monument médiéval de Chypre.
Et dans le catalogue également du Louvre, ont été reproduites ces très belles planches, dessins aquarellés, comme Pierre-Yves le rappelait à l'instant. Et c'est d'autant plus important que dans de nombreux cas, en 100 ans, ces peintures murales se sont tellement détériorées qu'on ne voit plus rien aujourd'hui. Dans le cas de la chapelle de Piria, par exemple, elles ont subsisté à peu près dans un état équivalent, un peu passé. Mais dans d'autres cas, et c'est le cas des églises de Famagouste, on ne voit aujourd'hui quasiment plus rien.
Une dernière question avant de quitter Camille Enlard et les rivages de Chypre. Il avait une vision particulière quand même de l'archéologie, de l'histoire et de l'histoire de l'art. Il voulait faire abandonner le terme d'art gothique pour celui d'art français. Alors ça s'explique sûrement évidemment par le contexte historique, mais j'aimerais votre éclairage à tous les deux, Pierre-Yves Le Pogam.
Alors vous savez qu'on est évidemment à cette époque-là dans une période de grande tension politique et pas seulement politique, intellectuelle.
Et après, de rivalité savante.
Voilà, après la guerre franco-prussienne, évidemment, les Français sont déterminés à montrer que la France n'est pas inférieure à l'Allemagne dans tous les domaines, y compris dans le domaine intellectuel. Et d'un point de vue historique, les Français s'attachent à ce moment-là à montrer que l'art gothique, bien ce mot de gothique inventé par Vasari,
voilà,
est évidemment
important.
Non seulement péjoratif, mais au fond mal choisi pour désigner un art qui, à leurs yeux, et c'était assez juste, était né en France, s'était développé en France et avait connu peut-être leur plus belle réalisation sur le territoire français ou dans des territoires bien plus éloignés, mais largement influencés par la France. Donc il y a une sorte d'arrière-plan nationaliste, mais la position intellectuelle de Camille Enlard pouvait tout à fait se comprendre. Alors, il faut reconnaître malheureusement qu'il n'a pas gagné, puisque nous continuons à dire art gothique, et au fond, c'est peut-être plus facile quand même, comme cela.
Sur Bernard de Vèvre?
Oui, mais je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit. Il avait notamment déjà esquissé cette ligne lorsqu'il était élève de l'école française de Rome, en publiant un ouvrage sur les origines de l'art français en Italie. Il est certain que le mot gothique, il faut également, outre cet aspect important qu'il faut remettre dans son contexte historique, était assez mal perçu, puisque on voit par exemple que au XVIIIe siècle, dans beaucoup d'églises, les chanoines se débarrassaient de tous les témoignages, certains absolument splendides, mais qui dataient de l'époque médiévale, en disant qu'ils ne voulaient plus de ces objets gothiques. Et donc, il y avait une connotation tout à fait péjorative, comme Pierre-Yves Le Pogam le rappelle très justement. Replaçons cela, la publication de ses premiers travaux, dans ce contexte d'après 1870 et de ce mouvement intellectuel pour faire quand même valoir ce que l'érudition française avait apporté depuis longtemps. Mais en dehors de cet aspect qui n'est pas marquant, il faut insister sur le fait que Camille Enlard a été un très grand érudit, un homme objectif, avec une connaissance absolument encyclopédique de l'histoire de l'art dans toute l'Europe.
Jean-Bernard de Vèvre, on dit que Chypre est un musée à ciel ouvert. Parmi tous ces monuments, ceux que vous avez visités, vos voyages dans les traces de Camille Enlard, quel monument vous a ébloui ou a votre préférence ?
Il y a beaucoup de monuments très très importants, très intéressants, des ouvrages d'architecture militaire, deux extraordinaires cathédrales, beaucoup de petites églises dont certaines sont très touchantes. J'avoue que le site le plus extraordinaire est l'abbaye de Bella Païs. J'y ai des souvenirs personnels dans la mesure où je m'y arrêtais le plus souvent possible lorsque j'allais dans le Nord. J'ai des souvenirs avec le doyen Jean Richard, membre de l'Académie des Inscriptions, et avec d'autres membres de l'Académie des sciences morales et politiques lorsqu'ils sont venus en Chypre, lorsque j'étais en poste. C'est un lieu absolument magique dont a parlé également dans son livre « Bitter Lemons » Laurence Durel, et qui en a fait une description qui est très belle.
Mais je vous remercie, messieurs, merci d'être venus présenter cette exposition « Chypre entre Byzance et l'Occident du 4e au 16e siècle ». L'exposition se déroule au Louvre du 28 octobre au 28 janvier 2013. Auquel il faut ajouter la petite exposition sur un grand médiéviste, Camille Enlard, un Français en Chypre, qui est également présenté juste à côté, en fait, hein, c'est à proximité. Et puis, je rappelle les deux livres, Monuments médiévaux de Chypre, Photographie de la mission de Camille Enlard en 1896 de Jean-Bernard de Vèvre, édité par l'Association des Amis du Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance au Collège de France. Et puis, alors, le catalogue de l'exposition, Chypre, même titre, hein, entre Byzance et l'Occident, publié par Somogy Éditions d'Art et Louvre Édition. Bien, merci, messieurs.
Merci, madame.